Nous sommes le 7 mai, bonjour à tous et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Vous êtes en compagnie de Kim Hong-joo et Baptiste Mourigal.
À la une aujourd'hui, le gouvernement sud-coréen maintient ses mesures de plafonnement des prix des carburants pour limiter les effets du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation. Nous évoquerons également la condamnation en appel de l'ancien Premier ministre Han Dong-soo à 15 ans de prison dans l'affaire liée à la loi martiale. Et puis, en fin de journal, un robot humanoïde officiellement accueilli parmi les fidèles bouddhistes lors d'une cérémonie organisée au temple Jogyesa de Séoul.
Ouvrons ce journal avec le maintien des mesures de plafonnement des prix du carburant par le gouvernement pour contenir la hausse des prix de l'énergie dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient.
Une décision qui s'explique, selon l'exécutif, par l'accélération de l'inflation après le déclenchement du conflit au Moyen-Orient, notamment sous l'effet de la hausse des produits pétroliers alors qu'elle s'était stabilisée autour de 2% en début d'année. Les autorités estiment toutefois que le plafonnement des prix ainsi que la réduction de la taxe sur les carburants ont fortement atténué les pressions inflationnistes. Sans ces dispositifs, le prix du diesel aurait pu dépasser les 2800 won par litre, tandis que l'inflation, évaluée à 2,6% le mois dernier, aurait atteint près de 3,8%.
Le gouvernement veut également lutter contre certaines pratiques spéculatives.
Il considère que certaines entreprises importatrices profitent des droits de douane réduits pour acheter des produits à bas prix avant de les stocker dans l'attente du hausse du marché. Les autorités ont donc décidé de créer un organisme chargé de surveiller l'ensemble de la chaîne, de l'importation jusqu'à la vente. À partir du mois d'août, la durée obligatoire de mise en circulation du sucre soumis à ce régime de droits réduits passera de 6 à 4 mois afin de limiter ces pratiques.
Concernant le cargo sud-coréen Damu, victime d'un incendie lundi dans le détroit d'Ormuz, son remorquage vers le port de Dubaï a débuté hier.
C'est ce qu'a indiqué son amarreur HMM, une opération qui a démarré après l'autorisation des autorités locales. Elle devrait durer plus de 24 heures, notamment en raison des travaux pour stabiliser le navire avant son transfert vers le port situé à environ 70 km du lieu de l'incident.
Le cargo pourrait arriver à Dubaï dès ce soir ou demain matin, heure locale, et après.
La salle des machines gravement endommagée par l'incendie sera réparée dans les installations navales du port. En parallèle, une enquête sera menée afin de déterminer l'origine exacte du sinistre. Une équipe gouvernementale sud-coréenne est d'ailleurs partie hier soir pour participer aux investigations. À ce stade, plusieurs hypothèses. Les premiers éléments privilégient une explosion suivie d'un incendie à l'intérieur du navire, aucune brèche ni voie d'eau n'ayant été détectée sur la coque. Mais la possibilité d'un facteur externe n'est pas écartée. Certains membres d'équipe affirmant avoir entendu une forte détonation au moment des faits.
Dans ce contexte, l'ambassade d'Iran à Séoul a réagi officiellement.
Dans un communiqué publié hier, elle a rejeté toute implication directe du gouvernement ou de l'armée iranienne. Elle n'exclut toutefois pas que le bateau ait pu être affecté indirectement par des opérations militaires menées dans la zone.
Sur le plan diplomatique, des discussions se poursuivent autour du détroit d'Ormuz avec cette fois une initiative portée aux Nations Unies par les États-Unis et plusieurs pays arabes du Golfe.
Et la Corée du Sud a été invitée à rejoindre ce groupe afin de soutenir un projet de résolution du Conseil de sécurité visant à défendre la liberté de navigation et sécuriser cette voie maritime stratégique. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a confirmé avoir reçu cette sollicitation et suivre de près les discussions en cours entre les États membre du Conseil. Séoul rappelle toutefois qu'elle ne siège plus actuellement au Conseil de sécurité, le mandat de 2 ans de la Corée du Sud en tant que membre non permanent ayant pris fin en 2025. Le gouvernement indique donc de ne pas participer directement au débat ni au vote éventuel du texte.
Le projet américain vise directement l'Iran.
Mardi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a officiellement présenté un texte condamnant les violations récentes d'accords par Téhéran. Le document considère toute tentative d'entraver la liberté de navigation ou d'imposer des droits de passage comme une menace contre la paix et la sécurité internationale. Selon ce projet, le secrétaire général de l'ONU disposerait de 30 jours pour informer le Conseil du respect ou non des engagements iraniens. En cas de non-respect, de nouvelles mesures coercitives pourraient être étudiées. Les États-Unis espèrent faire adopter cette résolution dès la semaine prochaine.
La Corée du Nord a officiellement modifié sa constitution afin d'inscrire sa nouvelle doctrine considérant les deux Corées comme deux États distincts.
Et cette révision constitutionnelle a été dévoilée hier par le ministère sud-coréen de la réunification. Le texte supprime notamment toute référence à la réunification qui figurait encore dans la version révisée en 2023, ainsi que les passages évoquant les réalisations de Kim Il-sung et de Kim Jong-il en sa faveur, mentionnées dans le préambule. À l'inverse, un nouvel article définit désormais officiellement le territoire nord-coréen comme étant bordé au nord par la Chine et la Russie et au sud par la Corée du Sud.
Le pouvoir de Kim Jong-un ressort également renforcé dans cette nouvelle version.
Oui, Kim Jong-un y est désormais présenté explicitement comme chef de l'État, avec un contrôle exclusif sur l'arme nucléaire mentionné pour la première fois dans la Constitution. Son statut institutionnel passe avant celui de l'Assemblée populaire suprême.
Malgré cette rupture symbolique, Pyongyang n'emploie pas officiellement le terme d'État ennemi pour désigner le Sud.
Une nuance relevée par plusieurs analystes. Selon Lee Jong-chol de l'Université nationale de Séoul, l'absence de référence explicite à des relations hostiles ou un état de guerre pourrait laisser entrevoir la possibilité d'une coexistence pacifique entre les deux Corées.
Séoul a d'ailleurs réagi rapidement à cette révision constitutionnelle.
Exactement, la présidence sud-coréenne a indiqué qu'elle procéderait à un examen approfondi des nouvelles dispositions, tout en maintenant sa politique de coexistence pacifique dans la péninsule.
L'ancien premier ministre sud-coréen Han Duck-soo a été condamné aujourd'hui en appel à 15 ans de prison dans l'affaire liée à la proclamation de la loi martiale.
La haute cour de Séoul a réduit sa peine de 8 ans par rapport au jugement de première instance qu'il avait condamné à 23 ans de prison. Le tribunal a estimé que la loi martiale constituait un acte de rébellion anticonstitutionnel et illégal. Selon la cour, Han Duck-soo a contribué à donner une apparence de légalité à cette proclamation de la loi martiale à travers des réunions gouvernementales et différentes procédures formelles. Plusieurs autres accusations ont également été retenues. Les juges ont confirmé sa culpabilité concernant des échanges avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Lee Sang-min, autour de mesures de coupure d'eau et d'électricité, ainsi que de tentatives de contrôle de certains médias. Le tribunal a aussi retenu une partie des accusations liées à la rédaction a posteriori d'un document destiné à dissimuler des irrégularités juridiques dans le décret de la loi martiale, ainsi qu'à un faux témoignage devant la Cour constitutionnelle.
En revanche, certains chefs d'accusation ont été abandonnés en appel.
Oui, contrairement à la première instance, la Cour a considéré qu'il n'avait pas manqué à ses obligations de Premier ministre en ne s'opposant pas activement à Yoon Suk-yeol. Elle l'a également acquitté sur les accusations liées à une tentative d'obtenir la signature des ministres après la proclamation de la loi martiale. La défense a déjà annoncé un nouveau recours. Les avocats de Han Duck-soo ont indiqué qu'ils saisiraient la Cour suprême.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Et pour terminer ce journal, direction le temple Jogyesa de Séoul où une cérémonie bouddhiste pour le moins inhabituelle a été organisée à l'approche de l'anniversaire de Bouddha.
Et l'ordre bouddhiste Jogi a organisé hier une cérémonie de prise des préceptes pour un robot humanoïde. Dans le bouddhisme, ce rituel marque l'engagement des fidèles à suivre les enseignements du Bouddha et à respecter les principaux préceptes religieux. Le robot, baptisé Gabi, a été officiellement accueilli parmi les fidèles. Haut d'environ 1m30, il est apparu vêtu d'une robe bouddhiste et d'un kaza avec un casque rappelant une tête rasée de moine. Avant la cérémonie, il a même participé à des rites de repentance et de purification traditionnellement réservés aux pratiquants humains.
Les échanges avec les moines ont également été adaptés à cette situation inédite.
Oui, lorsqu'un moine lui a demandé s'il souhaitait prendre refuge dans les trois joyaux du bouddhisme, le robot a répondu positivement d'une voix assurée. Les 5 grands préceptes bouddhistes ont eux aussi été adaptés spécialement pour lui.
Gabi participera désormais aux célébrations religieuses du mois de mai.
Exactement, il exercera comme moine d'honneur autour de l'anniversaire de Bouddha et prendra part avec d'autres robots à la procession des lanternes organisée le 16 mai dans le quartier de Jongno à Séoul.
Merci d'avoir suivi ce journal. Plus d'informations sur notre site internet. Tout de suite, Séoul, au jour le jour avec Elodie Stanislas. Bonne journée sur KBS World Radio.